Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Maintenant, ce soir, nous poursuivons notre étude de cette question de l'assurance du salut. Nous avons abordé le texte de 2 Pierre, chapitre 1, avec une allure presque comme un marathon. Nous courons depuis longtemps, et nous n'avons pas encore atterri au verset 5. Mais nous essayons d'introduire le thème traité dans 2 Pierre 1, 5 à 11. Le thème ici est la question de la certitude du salut. Le sujet plus vaste que Pierre traite ici est notre foi précieuse, dont il a commencé à parler au verset 1. Mais à partir du verset 5, il se préoccupe de cette question de la certitude du salut. Juste pour toucher le début de l'idée, nous notons versets 9, 10 et 11 qu'il parle de cette question même, en disant au verset 9 « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Pierre craint que les personnes oublient qu'elles ont été pardonnées. Il veut qu'elles soient sûres de l'appel de Dieu et de leur choix, qu'elles expérimentent à l'abondance qui leur appartient, en entrant dans le royaume par le Christ. C'est donc une question d'assurance qui lui vient à l'esprit, et, à l'approche de cela, j'ai estimé qu'il était nécessaire d'aborder le sujet, sur une base beaucoup plus large. C'est pourquoi, depuis plusieurs semaines, nous nous efforçons de discuter de la doctrine de l'assurance du salut. Nous posons simplement la question, comment pouvons-nous, en tant que croyants, jouir de l'assurance du salut? Comment puis-je être sûr que ma foi est une foi qui sauve? Comment puis-je être sûr que ma vie est une nouvelle vie en Christ? Évidemment, c'est une question vitale pour notre joie et pour notre paix en tant que chrétiens. Maintenant, avant de nous pencher sur ce texte particulier, j'ai attiré votre attention sur 1 Jean, car Jean traite la même question. Voulant être aussi complet que possible, en discutant de ce thème, je me suis éloigné vers 1 Jean, et je vais le refaire ce soir. Revenons à 1 Jean. Un certain nombre d'écrivains du Nouveau Testament, bien sûr, sont très préoccupés par cette question du vrai salut, tout comme notre Seigneur Jésus lui-même. Et Jean consacre en fait entièrement la première épître à ce sujet. Dans le chapitre 1, par exemple, permettez-moi de vous mettre en contact avec le verset 4. Jean dit « Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite. » Il dit que le but de l'écriture de cette épître est qu'ensemble nous puissions nous réjouir. La joie du vrai salut est certainement inhérente à cette joie. À la fin de cette épître, chapitre 5 et verset 13, il résume avec cette déclaration très importante et quelque peu thématique. « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez, au nom du Fils de Dieu. » Maintenant, il y a le thème de cette épître. Il a commencé par dire « J'écris pour que vous puissiez avoir toute la joie. » Il finit par dire que la pleine joie fait partie de la confiance, quand vous savez que vous avez la vie éternelle. Jean écrit donc cette épître pour nous donner des instructions, afin que nous sachions que notre salut est authentique. Maintenant, l'épître en tant que telle est composée d'une série de tests. Vous entendez souvent des personnes dire que l'épître de 1 Jean est basique, presque primitive, simple, un bon endroit pour commencer, avec de nouveaux chrétiens. Et il l'est. Mais c'est aussi une épître très profonde, et souvent difficile à interpréter clairement. Très difficile. Une chose évidente cependant, tout au long de l'épître, est qu'il existe des tests clairement donnés qu'une personne puisse prendre pour vérifier si son salut est authentique. Je suppose que nous pourrions dire honnêtement que si quelqu'un remettait en question sa condition spirituelle et ne savait pas s'il possédait vraiment la vie éternelle, ce serait l'endroit où l'envoyer. Maintenant, nous avons déjà considéré 6 de ces tests, et nous continuerons à partir de là ce soir. Permettez-moi de passer en revue les 6 premiers, et je les mets sous forme de questions. Premièrement, aimez-vous la communion avec Christ et Dieu? Ce test apparaît au chapitre 1, versets 2 et 3, ainsi qu'au chapitre 5, versets 1 à 5. Deuxièmement, Jean apporte un autre test. Êtes-vous sensible au péché dans votre vie? C'est aussi dans le chapitre 1, verset 5, et dans le chapitre 2, verset 1. Êtes-vous sensible au péché dans votre vie? Troisièmement, êtes-vous obéissant à Dieu? Êtes-vous un modèle d'obéissance dans votre vie? C'est au chapitre 2, versets 3, 4 et 5. Ensuite, la quatrième requête et test que nous avons noté. Rejetez-vous le monde? Autrement dit, pour utiliser la terminologie même que Jean utilise, aimez-vous le monde? Aimez-vous le système du monde? C'est au chapitre 2, versets 15 à 17. Le cinquième test que nous avons examiné. Aimez-vous Christ et attendez-vous avec impatience son retour? Aimez-vous le Christ et attendez-vous avec impatience son retour? Cela nous le trouvons dans le chapitre 3, versets 1 à 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Puis, la dernière fois, nous avons considéré le sixièmement dans notre petite liste. Voyez-vous un modèle décroissant de péché dans votre vie? Voyez-vous un schéma de péché décroissant dans votre vie? Chapitre 3, versets 5 à 10. Nous avons donc traversé un certain nombre de tests pour parcourir cette merveilleuse épître. Maintenant, je veux vous en donner un peu plus ce soir, et j'ai confiance que ce sera en une succession de tirs assez rapides. Donc, septièmement sur votre liste, aimez-vous les autres chrétiens? Cela nous ramènera à la section que nous avons omise, l'une des sections clés, et qui est de retour au chapitre 2, versets 9 à 11. Revenons au chapitre 2, et notons les versets 9, 10 et 11. Verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, c'est-à-dire celui qui dit qu'il est croyant, qui dit qu'il possède la vie éternelle, qui dit qu'il connaît Dieu, qui dit qu'il est sauvé, qui dit qu'il s'est converti, et qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Revenez au verset 6, juste pour vous aider à comprendre cela. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Maintenant, le passage dit que si vous prétendez être en Christ, votre vie va montrer certains des schémas de Christ. Et certainement aimer votre frère serait un modèle très basique. Être dans la lumière, être purifié, marcher avec Dieu, être sauvé, être en communion avec Christ, c'est expérimenter et exprimer l'amour. Ce ne sont donc pas les personnes qui prétendent être chrétiens, mais ce sont les personnes qui aiment les frères. Suivez-le au verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. En d'autres termes, si vous prétendez être chrétien, mais n'aimez pas vos frères et sœurs en Christ, votre revendication est une imposture. Pour l'illustrer un peu plus, permettez-moi de vous faire aller vers l'épître que nous étudions le matin, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et d'écouter comment Paul délimite très clairement cette question de l'amour. Verset 9 dit aux croyants de Thessalonique, « Pour ce qui est de l'amour fraternel, même idée que Jean, vous n'avez pas besoin qu'on vous en décrive. Pourquoi? Car vous avez vous-même appris de Dieu à faire quoi? À vous aimer les uns les autres. Ce que Paul dit là, c'est que c'est inhérent ou implicite dans le salut, l'octroi de la nouvelle nature et du Saint-Esprit, que Dieu vous enseignera à vous aimer les uns les autres. Celui qui aime Dieu aime celui que Dieu engendre, dit Jean dans 1 Jean 5, 1. Si vous aimez Dieu, vous aimerez ses enfants. C'est basique. Puis au verset 10 de 1 Thessaloniciens 4, il ajoute « Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Vous n'avez pas aimé aussi pleinement que vous devriez aimer, mais vous avez aimé. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à aimer. C'est instinctif, c'est implicite, c'est inhérent. C'est un élément dans la nouvelle nature. » Pour vous le montrer plus clairement dans les Écritures, regardez Romains 5. Dans Romains 5, nous avons ici un catalogue des choses qui sont les nôtres par la justification, par la foi. Le verset 1 dit que puisque nous avons été justifiés par la foi, il y a un certain nombre de choses que nous avons reçues. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une paix établie pour toujours avec Dieu. De plus, nous avons obtenu notre introduction par la foi dans cette grâce dans laquelle nous nous trouvons. Le salut nous apporte la paix avec Dieu et la grâce. Nous sommes littéralement engloutis par la grâce, qui continue d'être plus grande que notre péché, et de nous purifier. Puis il dit que nous nous réjouissons aussi dans l'espérance de la gloire de Dieu, un jour, pour être glorifiés en sa présence. Non seulement cela, nous nous réjouissons de nos tribulations. Pourquoi ? La tribulation apporte la persévérance, le caractère éprouvé et l'espoir ne déçoit pas. Puis il ajoute, parce que l'amour de Dieu s'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Il est caractéristique d'un croyant d'avoir la paix avec Dieu, de se tenir dans la grâce, de se réjouir dans l'espérance et de faire l'expérience de l'amour pour Dieu. Non seulement l'amour pour Dieu, mais l'amour de Dieu, répandu en nous, s'exprime non seulement à Dieu, mais à tous ceux qui sont nés de Dieu, les autres croyants. Jésus est allé jusqu'à dire ceci dans Jean 13, 34. « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. » Quoi ? « Aimez-vous les uns les autres ?» Jean 13, 34 et 35. C'est fondamental dans votre vie chrétienne que nous ayons la capacité de nous aimer les uns les autres. Maintenant, nous n'avons pas besoin de développer cette question, parce que vous êtes familier avec ce que l'Écriture enseigne à ce sujet. Mais il suffit de dire pour le moment que s'aimer signifie se servir les uns les autres dans l'humilité. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment, c'est avant tout un sens de la responsabilité dévouée, un service sacrificiel, des soins humbles et sensibles. Vous devez donc vous poser la question, pour être fidèle à Jean ici, si vous aimez les autres croyants. Si vous prétendez être chrétien et que vous n'avez aucun amour pour eux ou aucun amour sacrificiel pour eux, aucun amour dévoué, humble et attentionné pour eux. Alors Jean dit que vous pouvez être dans la lumière, mais la vérité est que vous êtes dans l'obscurité. L'amour est une preuve de la vie divine. L'amour dans votre vie signifie que vous avez traversé pour endosser la vie divine. Allons chapitre 3, verset 14, et nous le verrons ici. Il utilise le terme très grec, « traverser », au verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Comment le savons-nous ? Comment pouvons-nous savoir que nous sommes chrétiens ? Comment pouvons-nous savoir que nous avons traversé pour endosser la vie ? Verset 14. Parce que nous aimons les frères. Il y a un test simple, bien-aimé. Vous souciez-vous des autres croyants ? Ou êtes-vous complètement froid et indifférent ? Avez-vous un désir de tendre la main et de répondre à leurs besoins ? Voilà le test. Le verset 14 dit en outre. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Il n'a pas traversé pour endosser une nouvelle vie. Verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Les personnes qui se caractérisent par une haine continuelle, qui pourrait se traduire non pas tant par une hostilité vitrioleuse, une vengeance, une colère, mais plutôt par une approche d'une vie totalement égoïste, égocentrique, ils ne connaissent pas Dieu. Les personnes qui se concentrent continuellement sur eux-mêmes et se moquent de ce qui arrive à quelqu'un d'autre, quoi qu'ils prétendent, sont les enfants du diable, caractérisés par le meurtre, caractérisés par la haine, et ils demeurent dans la mort spirituelle. Verset 16. Il le répète. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Quelqu'un va dire, d'accord, vous parlez de cet amour. Que voulez-vous dire par là? Nous savons que c'est le sacrifice. L'amour est défini comme le sacrifice pour les autres. Avez-vous de la joie lorsque vous donnez à l'œuvre du Seigneur ? Avez-vous de la joie lorsque vous rencontrez une personne dans le besoin et que vous pouvez lui donner de l'argent, une marchandise, du temps, de la prière, des soins pour répondre à son besoin ? Votre cœur se réjouit-il lorsque vous pouvez être avec des chrétiens, parler avec eux, partager avec eux, discuter avec eux des choses de Dieu, étudier la parole, prier, être simplement ensemble ? Souhaitez-vous prendre l'approvisionnement et les ressources que Dieu vous a données, et les appliquer à quelqu'un d'autre dans la famille de Dieu. C'est une preuve d'amour. Êtes-vous prêt à donner votre vie, vos biens, tout ce que vous êtes et possédez, pour répondre aux besoins de quelqu'un d'autre ? Cela ne signifie pas que nous sommes tous en mesure, en ce moment, de dire « Si un jour quelqu'un décidait de me lancer une épée dans le cœur, à moins que je ne fasse un sacrifice d'affection, je ne sais pas si je serai capable de passer le test. Si vous êtes un vrai chrétien, quand l'heure est venue, croyez-moi, Dieu vous donnera la grâce de le supporter, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas la grâce de supporter ce que vous ne supportez pas en ce moment. Mais quand cela arrive, vous le feriez. La question est, dans les circonstances où je suis maintenant, avec les opportunités que j'ai maintenant, est-ce que j'exprime l'amour de manière sacrificielle ? Verset 17. Il parle plus en détail. Celui qui possède les biens du monde, et voici comment il définit l'amour. ce n'est pas seulement donner sa vie, c'est bien de donner notre vie aux frères. Mais prenons quelque chose de très simple. Vous avez les biens du monde, c'est-à-dire les marchandises, les vêtements, le logement, la nourriture, la subsistance. Vous voyez votre frère dans le besoin, mais vous fermez votre cœur contre lui. Jean pose une question simple. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en vous? Comment pourriez-vous être chrétien? Vous voyez, les chrétiens ont reçu l'amour de Dieu pour l'étranger répandu dans leur cœur. Il n'est pas nécessaire de leur apprendre à s'aimer les uns les autres. Dieu leur a enseigné à le faire dans le cadre de l'influence sanctifiante de la justification. Dans cet état, ils aiment. Celui qui a les ressources pour répondre à un besoin, mais qui ferme sa compassion à celui qui en a besoin, peut prétendre être chrétien. Mais Jean pose la question. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Ainsi, il dit au verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Verset 19. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Quelle déclaration! Vous voulez de l'assurance? Vous voulez l'assurance que vous vous tenez devant lui, que vous vous tenez devant Dieu, l'assurance que vous êtes chrétien, un vrai croyant, que votre foi est la vraie foi. Cette assurance viendra de votre amour. Vous saurez que vous êtes dans la vérité, et cela va rassurer votre cœur. Soit dit en passant, le mot « peito » est le mot « assuré ». Cela signifie « pacifier »,« tranquilliser »,« apaiser »,« persuader ». Ainsi, vous pouvez assurer votre cœur, en vous tenant devant Dieu que vous êtes un vrai chrétien, sous le contrôle de la connaissance divine. Vous pouvez être sûr, si vous voyez l'amour dans votre vie, ce n'est pas l'amour parfait, mais c'est l'amour de Dieu à l'œuvre en vous, en aimant les autres. Verset 20. Car si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur, et il connaît toutes choses. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez cela. Votre cœur peut vous culpabiliser. Votre cœur peut faire de son mieux pour vous faire douter. Vous voyez, la chair déchue peut le faire. Il peut jouer à des jeux avec votre esprit. Satan peut travailler en vous pour vous condamner devant Dieu. Mais dans tout ce que votre cœur vous condamne, si vous voyez l'amour dans votre vie, votre cœur peut être assuré. Dieu est plus grand que votre cœur, et il sait tout. Même si votre cœur vous condamne, Dieu connaît la vérité. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? J'ajouterai simplement la note de bas de page, que vous doutiez peut-être de votre salut, mais Dieu ne le fait pas. Si c'est réel, il le sait. Même si votre cœur vous condamne, Dieu ne le fait pas. Dieu sait que vous êtes un vrai croyant. Vous traversez peut-être une période de doute. Vous avez peut-être du mal avec votre assurance. Ce que la parole de Jean montre dans ce texte vous pousse à retourner à l'amour de votre vie, pour examiner votre amour pour les autres chrétiens, pour voir si cela ne se montre pas ou ne se transforme pas en acte de bonté et de sacrifice. Si cela est caractéristique de votre vie, soyez tranquillisés, apaisés, pacifiés. Peu importe ce que votre cœur peut faire pour vous condamner, si vous montrez ces expressions d'amour dans votre vie, vous pouvez être sûr de votre salut. Peu importe à quel point la condamnation s'élève de votre cœur, Dieu, qui est plus grand que votre cœur, ne vous condamnera pas. Une conscience qui condamne peut priver un chrétien d'assurance, parce qu'une conscience qui condamne, voyez-vous, ne regarde que l'échec. Mais Dieu est plus grand que notre conscience. Il regarde le Christ. Comment savoir? En regardant ma vie pour voir si l'amour est là. Vous vous souvenez de Pierre? Il a, en quelque sorte, réglé ce problème lorsqu'il a fait face à Jésus, après l'avoir renié 3 fois. Qu'est-ce que Jésus lui a demandé 3 fois? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, alors montre-le, en nourrissant mes agneaux. Aime mes agneaux. Aime mes brebis. Aime mon peuple. Enfin, désespéré, Pierre dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Quand vous voyez votre amour pour Dieu en Christ, quand vous pouvez voir des expressions de votre amour pour les autres croyants, peu importe comment votre cœur vous condamne à cause du péché, peu importe comment votre conscience vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur et ne vous condamne pas. Votre cœur et votre conscience, comme je l'ai dit, ne regardent que l'échec. Dieu regarde l'œuvre de Christ. Alors posez-vous la question, est-ce que j'aime les autres chrétiens? 8. Dans la liste des tests de Jean, avez-vous l'expérience de la prière exaucée? Chapitre 3, pendant que nous y sommes, regardez le verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Maintenant, ce qu'il dit ici au verset 22, c'est que vous pouvez savoir que vous êtes croyant, lorsque vous commencez à recevoir ce que vous demandez. Parce que la seule façon de recevoir ce que vous demandez est de faire quoi? De garder ses commandements. Le verset 24 dit, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Commençons donc par la fin. Si vous demeurez en lui et qu'il demeure en vous, vous gardez ses commandements. Si vous gardez ses commandements, il répondra à vos prières. S'il répond à vos prières, devinez quoi? Vous lui appartenez. C'est ce que j'en dis. Nous pouvons avoir confiance devant Dieu. » La fin du verset 21. « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. C'est la preuve qu'il demeure en nous et nous en lui. » Passez au chapitre 5, verset 14. « Et j'en dis, c'est la confiance que nous avons devant lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous entend. Si nous savons qu'il nous entend dans tout ce que nous demandons, nous savons que nous avons la demande que nous lui avons demandée. Si vous lui appartenez, il répondra à vos prières. La prière exaucée est un signe que vous êtes son enfant. Puis-je le dire de cette façon? Dieu est plus soucieux de répondre à la prière de ses enfants que sont ses enfants de demander. Il y a une certaine déception, je pense, dans le cœur de Dieu, parce qu'il ferait tellement plus que nous lui avons jamais demandé de faire. Vous avez pensé à cela? Il doit y avoir une certaine déception dans le sens où il ferait bien plus que ce que nous lui avons demandé de faire. Mais quand vous priez, c'est la preuve que vous connaissez Dieu, si en réponse, il exauce votre prière. Il y a beaucoup de personnes qui prient Dieu. Vous entendez des personnes dire cela, cette petite expression, « Je prie Dieu pour ceci ou cela ». Ils ne connaissent même pas le Dieu auquel ils prient, pas plus qu'ils ne savent ce qu'est la prière. Mais pour ceux d'entre nous qui prions, et nos prières sont exaucées, nous pouvons savoir que nous avons la vie éternelle. Maintenant, l'une des bonnes raisons d'avoir une vie de prière active, agressive et fidèle, est pour que vous puissiez profiter de l'assurance que la prière exaucée apporte, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui n'apprécient probablement pas leur assurance de salut simplement parce qu'elles ont une telle expérience de prière exaucée, parce qu'elles ont une vie de prière tellement inefficace. Je peux seulement vous dire, ces choses se sont accumulées dans ma vie, que Dieu a répondu à mes prières en grande quantité à travers les années, continuellement, ce qui prouve qu'il m'entend, ce qui prouve que je demeure en lui et lui en moi, a répondu à la prière. Avez-vous des réponses à vos prières? Ensuite, vous avez la vie éternelle. Est-ce un modèle pour vous dans la vie? Avez-vous prié pour quelqu'un et les avez-vous vus venir à Christ? Avez-vous prié pour quelqu'un qui a eu de grandes difficultés et un grand besoin dans sa vie? Et Dieu a utilisé des moyens pour transformer cela en bénédiction et en joie. Avez-vous cherché Dieu au sujet d'un manque dans votre vie et l'avez-vous comblé? Avez-vous prié pour le pardon et une conscience claire et l'avez-vous reçu? Avez-vous demandé à Dieu de permettre à la grâce de présenter la vérité à une occasion donnée à un individu ou à un groupe? Et il vous a donné la grâce de le faire. Avez-vous cherché le pouvoir en proclamant l'Évangile et en avez-vous fait l'expérience? Avez-vous demandé que Dieu vous aide à conduire quelqu'un au Sauveur et il l'a fait? Avez-vous cherché à ce que Dieu vous satisfasse de votre situation, et cela vous a plu, et il a accordé la paix? Avez-vous demandé au Seigneur de vous enseigner quelques leçons à son sujet, et de vous aider à mieux le connaître, et il vous a enseigné des leçons difficiles, et maintenant vous le connaissez mieux? Voyez, tout cela est une indication que vous lui appartenez, et lui à vous, la réponse à la prière. Neuvièmement, un autre test que j'en donne. Faites-vous l'expérience du ministère du Saint-Esprit? Chapitre 4, verset 13, soit dit en passant, l'une des raisons pour lesquelles un Jean est difficile à interpréter est parce que Jean revient constamment sur les mêmes sujets. Il y a en quelque sorte un flux général, mais de temps en temps il saute en avant ou saute en arrière et ramasse quelque chose. La chose la plus difficile à propos de un Jean est c'est de décrire cela. Il se dessine presque en spirale, et c'est pourquoi nous reculons un peu. Il y a un flux, mais il saute ici et là de temps en temps, montrant quelque chose de la passion de Jean, qui n'est pas aussi froidement analytique que, disons, Paul. Mais de retour au chapitre 4 et au verset 13, écoutez ceci. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. Comment savons-nous cela? Vous savez, n'est-ce pas incroyable? Je viens de lire cela et je dis, comment les personnes peuvent-elles essayer de savoir si elles sont sauvées? nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. Je veux dire que cela ne pourrait pas être plus évident que cela. Comment ? En ce qu'il nous a donné de son esprit. La première chose que l'esprit a faite a été de témoigner que le Père a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde. Et nous confessons Jésus comme Fils de Dieu. Si vous confessez Jésus comme Fils de Dieu, le sauveur du monde, lui confiant votre vie, c'était l'œuvre de l'Esprit de Dieu en vous. C'était la preuve numéro un que vous possédez le Saint-Esprit, parce qu'en dehors du Saint-Esprit, vous n'allez pas savoir qui est le Christ, et vous n'allez certainement pas le confesser comme Seigneur et Sauveur. Avez-vous fait l'expérience du ministère du Saint-Esprit ? Dans quel sens ? Dans le sens où vous avez reconnu Jésus-Christ, avoué qu'il est le Fils de Dieu, avec tout ce que cela signifie. Si c'est le cas, Dieu demeure en vous, vous demeurez en Dieu, parce que l'Esprit a opéré cette croyance, cette foi. Si vous avez expérimenté le salut, la foi, l'amour pour Christ, l'engagement envers lui, c'était le Saint-Esprit à l'œuvre en vous. Si vous avez expérimenté l'illumination, c'est-à-dire la compréhension de la parole de Dieu, qui était-ce ? J'en dis que nous avons une onction de Dieu, donc nous n'avons pas besoin d'un enseignant humain. Qui est responsable pour cette onction ? L'Esprit Saint, l'Esprit Saint de toutes choses. 1 Corinthiens 2, même les choses profondes de Dieu, et nous les fait connaître, n'est-ce pas ? Elles sont discernées par l'Esprit. Êtes-vous venu à la foi en Christ ? Êtes-vous venu confier votre vie à Jésus-Christ ? Êtes-vous arrivé au point où vous avez démontré votre amour pour Christ en vous soumettant à lui ? C'est l'œuvre de l'Esprit en vous. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, est-elle illuminée dans votre cœur ? Comprenez-vous ce qu'il dit ? En fait, comprenez-vous si bien que vous aimeriez ne pas bien comprendre ? Est-ce relativement clair ? Je ne parle pas des passages obscurs avec lesquels nous luttons tous, mais la parole de Dieu. Ne vous vivifie-t-elle pas lorsque vous la lisez ? Demandez-vous, est-ce qu'elle ne me convainc pas lorsque je suis coupable ? Est-ce qu'elle me réjouit quand j'adore ? C'est l'illumination et la fraternité. Avez-vous déjà vécu une communion avec Dieu ? Vous dites, que voulez-vous dire ? Prenons la prière. Parlez-vous à Dieu ? Communiez-vous avec lui ? Le priez-vous ? Qui est à l'origine de cela ? Qui en vous vous fait crier « Abba Père » ? Galates 4 dit qu'il nous a donné son esprit par lequel nous crions « Abba Père ». Qu'est-ce qui vous fait aller à Dieu pour la communion ? L'invitation du Saint-Esprit ? Et l'éloge ? Qui élève votre cœur pour louer et adorer Dieu ? Le Christ ? Qui vous remplit pour chanter avec sens et dévotion ces merveilleuses chansons de louange que nous avons chantées il y a quelques minutes ? C'était le Saint-Esprit. Les non-régénérés ne font pas cela. Les impies ne font pas cela avec joie. Avez-vous déjà porté des fruits spirituels dans votre vie ? Avez-vous déjà vécu l'amour, la joie, la paix, la douceur, la bonté, la foi, la maîtrise de soi ? Ce sont les fruits de l'Esprit. Ces attitudes sont des grâces spirituelles. Avez-vous déjà été utilisé par Dieu pour servir ? Avez-vous déjà été témoin de quelqu'un ? Avez-vous déjà exercé un ministère spirituel en aidant quelqu'un, en donnant à quelqu'un, en dirigeant ? À travers tous ces domaines de dons spirituels. Vous voyez, si certaines de ces choses, ou beaucoup de ces choses, se sont produites dans votre vie, c'est la preuve de l'Esprit de Dieu. Faites-vous l'expérience du ministère du Saint-Esprit. Telles sont les voies, écoutez attentivement, dans lesquelles Romains 8, 16 est accompli. L'Esprit témoigne avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Comment l'Esprit rend-il témoignage ? En disant, vous êtes chrétien, vous êtes chrétien. M'avez-vous entendu ? Non. Il n'y a pas de voix audible. Comment le Saint-Esprit en témoigne-t-il ? Il témoigne par votre foi en Christ et votre amour pour le Christ. Il témoigne en vous éclairant les Écritures. Il témoigne en vous entraînant en communion avec Dieu dans le but de prier et de louer. Il témoigne en produisant en vous des grâces spirituelles, les fruits de l'Esprit. Il rend témoignage en produisant un témoignage efficace, un service efficace et un ministère envers les autres croyants. C'est l'œuvre de l'Esprit. Ce n'est pas une sorte de chose ésotérique, spatiale, théorique, mystique, que fait l'Esprit, mais ses œuvres très expérimentatrices et concrètes. Si vous avez fait l'expérience du ministère de l'Esprit de Dieu, vous pouvez être assuré. Si l'Esprit est en vous, vous appartenez à Dieu. C'est ce qu'il dit au verset 13. L'Esprit est en vous, vous appartenez à Dieu. Il vous a donné son Esprit, soyez-en assurés. Ne laissez pas votre cœur vous condamner. Vous damner, vous dire que vous n'êtes pas croyant. Reprenez contact avec l'œuvre de l'Esprit en vous. Il n'y a aucune raison de douter et d'être instable. Preuve numéro 2. Pouvez-vous discerner entre la vérité spirituelle et l'erreur? Pouvez-vous discerner entre la vérité spirituelle et l'erreur? Cela semble assez évident, mais allons au chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci. Voici la façon de les tester. L'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. En d'autres termes, chaque esprit qui reconnaît la réalité du Christ inhérente à Jésus-Christ, qu'il est le Sauveur, loin, le Messie, mais aussi que ce Sauveur, loin, le Messie, la deuxième personne de Dieu, celui qui est littéralement venu dans la chair humaine incarnée, c'est le test. Soit dit en passant, chaque faux système religieux que je connais viole ce test. Il sape toujours la vérité sur qui est Jésus-Christ. Parce que si vous postulez que Jésus-Christ est exactement qui la Bible dit qu'il est, accomplissant exactement ce que la Bible dit qu'il a accompli, cela élimine un faux système religieux. Tous les faux systèmes religieux doivent attaquer la personne et l'œuvre de Christ. Le test est donc très simple. Tout esprit confessant Jésus le Sauveur, le Christ loin, dans la plénitude de son œuvre, en incarnation, vient de Dieu. Pouvez-vous discerner cela? Verset 3. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Avez-vous entendu cela? Les vrais croyants écoutent les vrais prophètes, parce que les vrais croyants discernent la vérité de l'erreur sur la personne et l'œuvre de Christ. C'est la question du bassin versant. Si un homme venait dans cette chair et se tenait ici et enseignait l'erreur sur la personne de Jésus-Christ, cela, par la réponse, séparerait les croyants des incroyants. Les vrais croyants diraient « Ce n'est pas vrai ». Vous dites « Comment savons-nous cela ?» Vous le savez parce que Dieu vous a donné la vérité. Vous avez une onction de Dieu pour discerner. C'est l'enseignement du ministère à l'intérieur du Saint-Esprit. De toute évidence, il y avait dans l'Église à laquelle Jean a écrit de faux enseignants. Ces faux enseignants enseignaient quelque chose au sujet de Jésus. Nous ne savons pas quoi. Donc ici, vous n'avez pas un test moral, et pas un test expérimental, mais un test doctrinal. Il dit que les vrais croyants connaissent la vérité de l'erreur. C'est pourquoi, selon la parole de Dieu, un vrai croyant ne peut jamais dévier dans l'erreur sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Quelqu'un dit « J'avais l'habitude de croire en Jésus-Christ, mais j'ai vu la lumière. Maintenant, je crois que Jésus-Christ était un être angélique. » Ou « Je crois que Jésus-Christ était une émanation de Dieu. » Ou « Je crois que Jésus-Christ était un démiurge. » Ou « Je crois que Jésus-Christ est un esprit divin, sans élément humain. » Ou « Je crois que Jésus était juste un homme, mais pas divin. » Chacune de ces aberrations de Jésus-Christ reflète un cœur non régénéré. Pourquoi? Un concept simple. Lorsque vous avez été sauvé en croyant la vérité sur qui? Jésus-Christ. Est-ce correct? Ainsi, lorsque vous avez été sauvé en croyant la vérité sur Jésus-Christ. Comment en êtes-vous venu à croire cela? Le Saint-Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Soyez clair dans votre esprit. Donc, dès le moment de votre salut, il y a une chose que vous savez clairement, c'est qui est Christ et ce qu'il a fait. Sinon, vous n'auriez jamais été sauvé. Toute autre personne que Christ qui fait autre chose que Christ n'était pas le Sauveur. Donc, dès le début du salut, vous êtes venu dans la vraie connaissance de Jésus-Christ, et vous y restez, car le même Esprit qui vous a révélé cela au départ continue de l'affirmer. C'est la substance de votre foi qui continue. Notez ceci, bien-aimé, on vous a donné une fois la foi pour croire, et cela vous est toujours donné comme un don divin. Vous avez été une fois mené à comprendre qui est le Christ, et cela vous est continuellement donné comme un don divin. Les vrais croyants connaissent la vérité de l'erreur à cause du Saint-Esprit. Au verset 1 du chapitre 5, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » C'est encore le même test. Lorsque vous croyez la bonne chose à propos de Christ, vous êtes né de Dieu. C'est basique, absolument basique, donc essentiel. Maintenant, vous devez être sceptique. Revenez un instant au verset 1 du chapitre 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne croyez pas à tout ce que vous entendez. Arrêtez de croire tout le monde. Testez les esprits. Testez. Dokimazo. Une pratique continue. Testez continuellement les esprits. L'esprit implique l'influence derrière la bouche de l'enseignant ou du prophète. Testez-les. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de faux prophètes. Voici trois tests. Premièrement, la confession du Seigneur divin, versets 2 et 3. Confesse-t-il que Jésus est venu de Dieu dans la chair? Qu'il est Dieu, la deuxième personne incarnée dans le monde, en tant que sauveur, messie, roi. En d'autres termes, vous êtes d'accord avec la révélation de Dieu concernant Jésus-Christ? C'est le test numéro 1, l'engagement envers la seigneurie de Jésus-Christ, qui est Dieu dans la chair humaine. Deuxièmement, l'engagement envers la parole divine. Verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Voilà le deuxième test. Vraiment, ces deux tests suffisent. Que disent-ils du Christ? Écoutent-ils la parole de Dieu? Vous remarquerez les sectes, invariablement, que ce soit la science chrétienne, les témoins de Jéhovah, le mormonisme, ou l'un des autres, attaquent d'abord la personne du Christ. Deuxièmement, ils écrivent un substitut de la Bible. Invariablement, un vrai croyant peut discerner entre la vérité et l'erreur. Les vrais croyants ne croient pas aux mensonges. Pourquoi? Ils ont un professeur de vérité qui habite en eux. Le peuple de Satan écoute Satan. Le peuple de Dieu écoute Dieu. Vous voulez savoir si vous êtes chrétien? Demandez-vous ceci. Puis-je différencier la vérité sur Christ de l'erreur? Puis-je différencier la vérité de l'erreur? Je vous le dis, c'est tellement clair. J'ai entendu une émission de radio récemment. Et il y avait un homme là-bas qui propageait une fausse religion. Je ne sais rien de cette religion. Je ne connais pas les détails sur ce qu'il croit, mais je pourrais vous dire, grâce aux premières paroles sortant de sa bouche, dans la première phrase, que je savais que l'homme ne représentait pas la vérité, juste par sa manière de fausser une petite déclaration. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus accepté tout ce qu'il avait dit, et j'ai écouté assez attentivement jusqu'à ce qu'il ait terminé. Il m'a parlé d'un grand prophète, l'instrument de Dieu, pour apporter une grande vérité à l'humanité. Cela ne cadrait pas avec les Écritures. Je n'avais pas besoin de comprendre le système dont il parlait. Je n'avais pas besoin de savoir quoi que ce soit à ce sujet. Je sais que cela ne correspondait pas aux Écritures. Comment savez-vous cela? Parce que l'Esprit de Dieu m'a convaincu par la vérité de Jésus-Christ, et il m'a convaincu du salut en Christ par grâce et par la foi, et m'a convaincu de la véracité de la parole de Dieu. Et je n'ai pas besoin d'un prophète des temps modernes pour me dire la vérité. Cela devrait être également vrai dans votre vie. Il n'est pas nécessaire d'être diplômé d'un séminaire pour connaître la vérité de l'erreur. Maintenant, nous parlons de la vérité fondamentale, de l'œuvre personnelle du Christ et de la parole divine de Dieu. Finalement, avez-vous été rejeté à cause de votre foi? Regardez le chapitre 3, verset 13. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde, quoi, voué? Caïn détestait Abel. Les injustes détestent toujours les justes, parce que leurs actions sont mauvaises, et les nôtres sont justes. Avez-vous vécu de l'animosité, de l'hostilité, du rejet, de l'amertume, de l'aliénation, de l'ostracisme, voire de la persécution? Si c'est le cas, c'est un signe de votre christianisme. Nous sommes l'érosion du monde, n'est-ce pas? Écoutez Philippiens 1:28. J'aime énormément ce verset. Paul dit: sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Si vous avez des adversaires, c'est un signe de destruction pour eux, c'est un signe de salut pour vous. Lorsque vous êtes persécuté, ne dites pas « Oh, malheur à moi, suis-je vraiment chrétien? Les choses vont si mal, je me demande si Dieu s'en soucie. Si le monde persécute, vous dites « N'est-ce pas merveilleux? C'est clair qui je suis. Ne soyez pas surpris si le monde vous déteste. Je n'oublierai jamais la nuit où les démons criaient « Sortez-le, sortez-le !» Ils ne voulaient pas de moi dans la pièce. Ce fut une soirée très confirmante pour moi. Le fait que les démons savaient de quel côté j'étais était une bonne information pour moi. Quand le monde vient à vous, et que l'esprit de Satan vient à vous sous une forme ou une autre, et que vous êtes détesté pour la justice, c'est une affirmation. Maintenant, si vous êtes détesté parce que vous êtes odieux, c'est un autre problème. Il n'y a vraiment aucune vertu à cela. Maintenant, permettez-moi de répéter ces tests, très brièvement, car ce sont les choses que nous voulons toucher. Aimez-vous la communion avec Dieu et Christ? Êtes-vous sensible au péché dans votre vie? Êtes-vous obéissant à la parole de Dieu? Rejetez-vous le monde? Aimez-vous le Christ et attendez-vous avec impatience son retour? Voyez-vous le modèle décroissant du péché dans votre vie? Aimez-vous les autres chrétiens? Donc très basique. Avez-vous des réponses à vos prières? Faites-vous l'expérience du ministère du Saint-Esprit? Pouvez-vous discerner entre la vérité spirituelle et l'erreur? Avez-vous été rejeté, haï, aliéné pour votre foi en Christ? Si oui, dit Jean, j'écris toutes ces choses, afin que vous sachiez que vous avez quoi? La vie éternelle. Soyez assurés, chers amis, il n'y a aucune raison pour que vous passiez votre expérience spirituelle dans la déprime. Et pourtant, des millions de chrétiens le font, et certains enseignent ce thème super important très rarement. Inclinons-nous ensemble dans la prière. Nous nous réjouissons, Père, nous nous réjouissons de savoir que nous avons la vie éternelle, et que la vie éternelle que nous avons est, en effet, éternelle. Quelle joie! Merci pour le bonheur du cœur qui vient aux vrais croyants. Seigneur, nous prions également pour celui qui, exposé à ses tests, a échoué, et maintenant confronté à la prise de conscience que, quelle que soit la revendication, il n'y a pas de véritable salut de ce côté. Celui qui dit « Je n'aime pas la communion avec Dieu et Christ. Je vis dans le péché. Je n'y suis pas vraiment sensible. Je ne suis pas obéissant. Je ne rejette pas le monde. Je n'attends pas vraiment la venue de Christ. Je ne vois pas de modèle décroissant de péché dans ma vie. Je n'aime pas les autres chrétiens. Je n'ai pas l'expérience de la prière exaucée et du ministère de l'Esprit. Je ne peux pas discerner la vérité de l'erreur, et je ne suis certainement pas persécuté pour la justice. Père, pour ces personnes, sauve-les pour l'amour de Jésus et pour ta gloire éternelle. Pour le reste d'entre nous, remplis nos cœurs de joie, parce que notre salut est réel et sûr. Au nom de Christ. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.